hasard du calendrier de nos émissions, nous recevons Jean-Luc Enodi quelques jours après l'anniversaire du déclenchement des événements d'Algérie, de la guerre d'Algérie, ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge, il y a 50 ans, une série d'attentats à travers l'Algérie colonisée marquait le début de cette guerre d'Algérie. Cette histoire de la guerre d'Algérie, Jean-Luc Enodi en est un spécialiste, puisque, rappelons-le, il est l'auteur de deux ouvrages fondamentaux, on pourrait dire, sur le 17 octobre 61 à Paris. Donc le premier, c'est La bataille de Paris, qui a été publié en 91, puis republié depuis. Et puis en 2001, si je me trompe pas, il y a eu une autre version de cette enquête autour des événements du 17 octobre 61, qui s'appelait Octobre 61, un massacre à Paris. Alors Jean-Luc Enodi est également l'auteur de plusieurs biographies. À chaque fois, c'est souvent des parcours de militants qui sont mêlés à cette histoire de la décolonisation, des combats pour l'indépendance. Je pense en particulier au livre que j'avais beaucoup apprécié sur Maurice Laban, un Algérien qui a été publié en 99. Alors si on reçoit Jean-Luc Enodi ce soir, c'est qu'il a de nouveau commis une biographie, celle de Georges Mattei. Et alors Georges Mattei, comment on pourrait le qualifier, militant anticolonial, militant internationaliste, le parcours de Joe, celui que vous appelez Joe, Georges Mattei, est étonnamment riche et on est assez impressionné par la beauté et la justesse des causes qu'il va épouser toute sa vie et des rencontres, la richesse des rencontres qu'il va faire toute sa vie. Alors voilà, Jean-Luc Enodi, si vous pouvez nous parler un peu de Georges Mattei, d'abord d'où vient-il, quel est son parcours avant qu'il devienne, avant qu'il verse en politique, avant qu'il devienne un militant?
Ben, on peut dire que c'est un enfant de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est quelqu'un. Bon, il est né dans les années 30 et donc il était enfant au moment de l'occupation. Il s'est trouvé dans une famille avec un oncle qui était résistant en Bourgogne et il a assisté à un certain nombre de crimes commis par les nazis voilà des scènes qui ont profondément marqué son enfance. Et puis cette ambiance d'action clandestine de résistants, hein. Son oncle était donc un des organisateurs d'un réseau de résistance, hein. C'était un résistant FTP. Et donc voilà, son enfance a été profondément marquée par ce climat, hein. Voilà. Et puis ça a été ensuite à la libération un adolescent, on peut dire, du quartier latin, hein. Il était d'une famille très très modeste, hein. Sa mère tenait un café où on vendait des journaux à l'hôpital de la Salpêtrière, hein. Donc il a aussi vécu dans cette ambiance-là, au contact des enfants malades, handicapés, etc. Donc avec un regard sur l'autre, hein, tout à fait particulier, hein. Et donc l'adolescence au quartier latin, baignant dans la poésie, l'amour de la poésie de Garcia Lorca, avec en tête un certain nombre de grands mythes comme la guerre d'Espagne, hein. Son oncle avait été dans les brigades internationales, la résistance, la révolution mexicaine, hein. Voilà, tous ces mythes-là. Et puis donc ces images là, c'est de la résistance et de la terreur nazie qui l'ont profondément marqué, hein. Voilà. Alors son adolescence, bah oui, ça va être dans ce quartier latin d'après-guerre avec donc d'autres adolescents ayant plus ou moins vécu les mêmes choses quelques années plus tôt, hein. Profondément, il était libertaire, hein. C'était sa sensibilité profonde, hein. Néanmoins, il va passer quelque temps dans un groupe trotskiste, hein, mais bon, assez vite, il va se sentir, disons, pris dans un carcan, Hein. Bon. Et puis, il va, début des années 50, il va participer, par exemple, aux manifestations contre la venue du général américain Ridgway. Et puis, quelques temps après, il échoue au bac, il sait pas trop quoi faire et il décide de se débarrasser de son service militaire. Hein. Il devance l'appel et il est envoyé en Afrique noire. Bon. Donc il effectue son service militaire là-bas, ça se passe très très mal, il se retrouve en prison, il se retrouve dans un camp disciplinaire, un officier voulait même sa peau, hein. Et disons que son antimilitarisme s'approfondir encore. Bon, alors il revient d'Afrique noire et peu de temps après son retour, eh bien, c'était il y a 50 ans, novembre 1954, le début de ce qu'on appellera, bien longtemps après, la guerre d'Algérie. Au début, ma foi, ils se sont pas vraiment concernés. Tout ça, c'est très lointain. Les Algériens, ils ne connaissent des Algériens que ceux qu'il peut croiser comme ça dans la rue. Hein. Néanmoins, il va lire en 1955 le livre de Francis et Colette Janson, L'Algérie hors la loi. Hein. Il va participer à des manifestations. Lui, son truc, c'est à cette époque-là de travailler, hein, faire des petits boulots, mettre un peu de sous de côté et partir voyager. Voilà, partir voyager, notamment en Italie, bourlinguer comme ça. Voilà, c'est son truc. Et puis, cette guerre d'Algérie, finalement, va le rattraper. En 1956, pour la première fois de sa vie, il vote. Il vote communiste. Il y a eu une campagne électorale contre la guerre en Algérie, pour la paix en Algérie. Bon, et puis, il part ensuite, quelque temps après, il part donc en Italie. Et en Italie, au mois de juin 1956, il reçoit un télégramme lui disant qu'il est rappelé en Algérie. Et il dira, je ne savais pas, en glissant mon bulletin de vote dans l'urne, que c'était mon bulletin de rappel que je déposais. Parce qu'effectivement, c'est ce gouvernement présidé par Guy Mollet, hein, et dans lequel, on ne le rappellera jamais suffisamment, François Mitterrand était ministre de la Justice, c'est ce gouvernement qui décide le rappel de centaines de milliers de jeunes gens, de jeunes hommes qui ont déjà effectué leur service militaire, qui, pour un bon nombre d'entre eux, sont jeunes mariés, ont pris des crédits, hein, ça commence à se développer, cette affaire-là. Bref. Alors, lui, il est en Italie, alors il n'a pas du tout envie d'y aller. Hein. Il n'a pas du tout envie d'y aller. Seulement, il faut bien avoir en tête qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de déserteurs. Hein. Nous sommes en juin 56, ça n'existe pas encore, hein. Le mouvement des déserteurs, des insoumis de la guerre d'Algérie. Et il est seul face à lui-même, hein, et à ce problème. Et alors, il y a un truc très con dont il dira lui-même que ça a été très, très con. C'est que par une sorte par un réflexe de type machiste, hein, il se dit que s'il n'y allait pas, ça serait peut-être par peur, tout simplement, et par lâcheté. Bon. Et alors, très bêtement, donc, il décide, de faire comme tous les autres, finalement, d'y aller, hein, pour, au fond, vérifier qu'il n'est pas un lâche. Or, ça peut paraître, effectivement, comme il disait, très très con. Mais enfin, chacun, dans des circonstances données, est fait de tout un tas de contradictions. Il était, lui, issu d'une famille corse, vous savez. Bon, dans sa famille, il y avait eu bon nombre de types qui s'étaient... qui s'était engagé dans l'armée à telle ou telle époque, hein, comme c'est arrivé très souvent chez les Corses. Et donc, y compris par une sorte de référence familiale, il a pris cette décision. Alors, il revient donc en France. Finalement, donc, il se retrouve dans une caserne à Évreux, apparemment. Et là, il se retrouve avec des tas d'autres gars appelés comme lui, qui comme lui profondément ne veulent pas y aller. Hein. Ils sont là, hein. Ils ont répondu au rappel, hein, mais ils veulent pas y aller. Et alors les uns se disent, mais nom de Dieu, si je pars, ma femme va me faire cocu. Tel autre se dit, si je pars, qui va payer la traite de la voiture, etc., etc. C'est-à-dire des raisons qui ne sont pas des raisons de haute politique, ni des raisons ayant à voir avec l'anticolonialisme tel quel. Hein. Mais additionner... Toutes ces raisons font que, ils ne veulent pas partir. Et puis en plus, ces types qui ont déjà fait leur service militaire, qui ont déjà donné, hein, on les prend pour des bleus, hein, et on leur parle comme savent si bien parler les gradés de l'armée, et ça passe pas, si bien que une révolte éclate. Et il va y en avoir bien d'autres, des révoltes de rappelés. Bon, et Georges Mattei va donc être un des leaders de cette révolte-là. Le colonel se fait malmener, son képi vole en l'air, il est porté, soulevé de terre, enfin bref. Et ils se barrent tous, ils s'en vont tous, ils repartent tous vers Paris, bon, lui comme les autres. Le problème étant que... Eh bien, ils se retrouvent, ils sont pas soutenus. Cette période qui s'est ouverte en février-mars 56, qui est l'époque des pouvoirs spéciaux, c'est ce qu'on appelle communément la gauche, hein, qui est au pouvoir. Le Parti communiste français n'est pas au pouvoir, lui, mais il a voté ses pouvoirs spéciaux. Et donc, on est dans une situation où il y a une anesthésie générale de la société française. On est à un moment où il n'y a plus, on peut dire, quasiment aucune opposition à cette guerre d'Algérie. Hein, on entre, à mes yeux, dans la période la plus terrible des années de la guerre d'Algérie. Hein, et donc, ces rappelés-là, eh bien, sont seuls, sans soutien. Et alors, ils se retrouvent, donc finalement, ils reviennent. Et puis, on les fait monter dans des trains direction Marseille. Dans le trajet, ça se passe mal aussi. Ils se bagarrent avec les gendarmes mobiles. Et des cas comme ça, il y en a bien d'autres à la même époque. Mais vous comprenez, s'il y avait eu, par exemple, un mot d'ordre de grève lancé par la CGT auprès des cheminots pour soutenir ces rappelés qui ne voulaient pas partir, les choses se seraient présentées différemment. Mais là, rien, rien. Bon, si bien que après Marseille, il se retrouve en Algérie, hein, et lui précisément en Grande Kabylie.
Alors Georges Mattei se retrouve donc en Algérie, et c'est un petit peu l'expérience fondatrice, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, ce qu'il va voir pendant cette guerre d'Algérie, qu'il va faire tous ces mois de rappeler, va guider grosso modo la suite de sa vie et va faire de lui.
C'est là où sa vie va basculer irrémédiablement. Hein. Ce jeune homme. Hein, puisqu'à ce moment-là, il a, je ne sais plus exactement, mais 20, peut-être 23 ans. Bon, voilà, c'est ça, 23 ans. Hein. Ce jeune homme, hein, qui se retrouve là-bas, immédiatement, qu'est-ce qu'il découvre ? La réalité de la torture. Hein. Immédiatement, hein, au bout de très peu de temps, il entend des hurlements la nuit. Et bah, on lui dit, bah, c'est des bougnoules qu'on est en train de faire parler. Voilà. Et là, eh ben, évidemment, ça renvoie à ces scènes dont il a été témoin, dont il a entendu parler de l'occupation nazie. Hein. La torture, c'était la Gestapo. Hein. Et ben là, la torture, c'est l'armée française. Et donc, là, d'emblée, il sait qu'il est du mauvais côté. Il le sait pleinement. Hein. Sauf que, et ça, il va donc vivre d'autres moments disons, les méthodes gestapistes hein, vont lui sauter au visage. Hein, par exemple, cette fois où il voit ce vieil homme hein, qu'il avait cherché à dissuader de suivre des Algériens qui étaient faits prisonniers, il les avait suivis. Lui, il allait livrer sa marchandise dans un village. Bon, et il a été, on l'a fait rentrer dans un camp. Et il avait parlé avec lui. C'était quelqu'un qui avait travaillé comme ouvrier à Marseille. Ils avaient parlé. Et puis la nuit, eh ben, il découvre cet homme. Suspendu à des barbelés, hein, après avoir dans un état absolument épouvantable, mourant, après avoir été torturé gratuitement, parce que je vais y revenir à ça, sur les motivations de la torture. Hein. Cet homme avait été donc supplicié gratuitement par l'adjudant-chef, qui était l'officier de renseignement de la compagnie. Et qui pratiquait la torture avec la complicité et la participation, y compris de quelques appelés, bien, ou rappelés même. Bon. Oui, à propos de la torture, alors communément, hein, on dit, oui, mais enfin, dans certaines circonstances, c'est le seul moyen qui existe, on appelle ça, hein, y compris là, ces derniers temps, hein, y a dans une revue, le Casoar, la revue des Saint-Syriens, là, ben on y est revenu, ça, hein, les interrogatoires renforcés, c'est comme ça qu'on appelle ça, par euphémisme, pour obtenir des renseignements. Eh bien, dans un très grand nombre de cas, la torture a été utilisée tout simplement pour donner libre cours au sadisme pur et simple. Hein. À partir du moment où la torture est utilisée, couverte, comme ça a été le cas, et même institutionnalisée pendant la guerre d'Algérie, eh bien, c'est la porte ouverte, tout simplement, à la barbarie. On est dans la barbarie. Bon, voilà. Et donc, il a été confronté à la barbarie. Voilà. Le problème étant, là aussi, on peut dire, et il y a pensé, déserté, d'accord, pour aller où ? Avec qui ? Comment ? Et en plus, les types qui étaient avec lui, là, je ne parle pas des tortionnaires, hein, mais ceux qui étaient rappelés là avec lui, eh bien, des liens d'amitié se sont créés. Hein. Il s'est senti aussi solidaire de ces garçons-là. Hein. Et lorsqu'il arrivait que l'un d'entre eux se fasse tuer, hein, eh ben, c'était aussi un de ses copains qui se faisait tuer. Voilà. Si bien qu'il s'est trouvé, au cours des 6 mois qu'il a passé là-bas, 6 mois, ça paraît court comme ça, hein, mais c'est une vie entière qui bascule, qui peut basculer pendant une période si courte. Il va se trouver pris à son insu, lui aussi, dans cet engrenage de la guerre. Hein, parce que, vous savez, ça a été l'argument beaucoup utilisé par le Parti communiste, hein, la formule, reprenant la formule de Lénine, qu'il fallait aller faire son service militaire pour faire un travail de l'intérieur. Sauf que, une fois que le soldat est pris dans le conflit, il cherche aussi à défendre sa peau. Hein, et il est pris, hein, dans l'engrenage de la guerre. Hein. Bon, et ça sera le cas de Georges Mattei. Ça sera son cas. Et il parlera lui-même de son expérience de massacreur.
بلغنا
toujours dans l'émission Les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel. On est avec Jean-Luc Hénaudy à propos de son livre Franc-tireur, sous-titré Georges Mattei de la guerre d'Algérie à la guérilla. On était un petit peu avec Jean-Luc en train de retracer le parcours de Georges Mattei. Georges Mattei va donc il a fait son service militaire, il est rappelé, il fait la guerre d'Algérie en tant que rappelé, il assiste à la torture, à comment se comporte l'armée, et puis il revient en France au bout de 6 mois, et ben là son attitude change et il va s'impliquer. Il va témoigner.
Mais ça va prendre quelque temps, parce que quand il revient de là-bas, dans l'hiver 56-57, il est chargé de haine et parce que il revient dans une France, mais qui est à mille lieues de tout ça, hein. Et il a vraiment le sentiment qu'on les a envoyés dans le sang et la merde, hein, et qu'on s'en lave les mains. Bon. Et alors, il est profondément révolté, mais d'une révolte aveugle. Le premier qui le regarde un peu de travers, il lui rentre dedans. Il est chargé de violence. Il fait des cauchemars. Hein, il entend les hurlements. Et il est à un moment là de sa vie où il peut évoluer comme l'ont fait beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de ces rappelés ou appelés se sont réfugiés dans l'alcool, dans la violence, dans la folie aussi, hein, parce que c'est ça aussi, hein, les traumatismes post-guerre d'Algérie, hein, ça a été quelque chose. Bon, et ça reste quelque chose d'ailleurs. Bon. Et puis alors, il se trouve que Joe, c'est quelqu'un qui, depuis son adolescence, je vous ai parlé de la poésie, il avait l'envie d'écrire. Et il avait écrit déjà, notamment une pièce de théâtre avec son ami Gérard Chalian, qui s'appelle Slovik le déserteur. Et alors, avant son départ d'Algérie, ils avaient fait passer le texte à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, qui était la grande figure intellectuelle, hein, pour tous ceux qui n'acceptaient pas le monde tel qu'il était. Bon, et il se trouve que Sartre finalement les reçoit très simplement et très gentiment. Bon. Et alors, il parle de cette pièce, il en fait quelques remarques, etc. Et puis, il prend de leurs nouvelles. Et c'est là que Bonjour lui parle un petit peu de son séjour en Algérie. Et Sartre lui dit, il faut témoigner, il faut écrire. Et c'est comme ça que Georges Mattei va être un des premiers à témoigner sur la réalité de cette guerre d'Algérie. Il va le faire donc dans Les Temps modernes. Ça va paraître donc l'été 1957, hein, sous son nom.
Et ça, c'est, hein, le premier à le faire sous son nom?
C'est un des tout premiers. Il y en a eu très peu jusque-là. Il y a eu, par exemple, Robert Bonneau, qui a publié un témoignage dans la revue Esprit qui s'appelle La paix des Nemencha. Il y a eu aussi Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui vient de publier un livre qui s'appelle Lieutenant en Algérie. Hein, bon, voilà. Mais il y a eu surtout des témoignages anonymes. Hein, il y a eu des témoignages anonymes et lui, accepte de publier sous son nom, c'est-à-dire acceptant les conséquences judiciaires, même à la limite les souhaitant, parce que dans ce témoignage, les noms des tortionnaires sont seuls les initiales figurent. Et donc, dans Les Temps modernes, on écrit que il est prêt à donner les noms des tortionnaires devant un tribunal. Bon. Alors
justement, tu nous parles des Temps modernes, c'est publié en 57, et alors Guillaume, en fouillant dans ses archives, a retrouvé le texte de Georges Mattei, donc écrit sous son nom, qui est un texte qui va être censuré à l'époque, et on va peut-être
s'appelle Jour Kabyle.
Voilà, Jour Kabyle, il va peut-être en lire un extrait, parce que c'est une plume aussi, oui. Georges Mattei.
C'était un écrivain, c'est une partie importante de sa vie, de son itinéraire, l'écriture.
Alors Guillaume, extrait du texte de Georges Mattei publié en 57.
Les spécialistes de la torture furent le sergent-chef B, l'adjudant G, le caporal-chef A, jeune appelé et notre capitaine. Occasionnellement, quelques hommes de troupe, par curiosité, venaient donner la main à ce petit travail quotidien et nocturne, accompagnés des sous-officiers d'actifs qui venaient, eux, pour se distraire. Je me souviens que, de temps en temps, lorsque le cinéma ambulant du bataillon venait nous projeter un film et qu'il ne plaisait pas à ces messieurs, ils se levaient et allaient tranquillement passer la fin de la soirée en compagnie des prisonniers. Les cris étaient en partie couverts par la musique du film. Un des sous-officiers du camp avait un berger allemand. Souvent, il s'amusait à confier un des suspects à sa bête. Ceci se passait sous les yeux des hommes de sa section qui excitaient la bête de la voix en riant. Ces jeunes garçons sont ou seront prochainement libérés.
Voilà, ça c'est un extrait de ce que Georges Mattei peut dire à cette époque. Quel est le poids et les conséquences de ce type de témoignage à l'époque? On est en 57, on est au début de la guerre d'Algérie.
Oui. Oh, ça reste assez confidentiel, faut bien dire ce qui est. Mais alors, l'effet, c'est que il va être contacté par d'autres anciens rappelés comme lui, qui eux aussi veulent témoigner. Ils veulent faire savoir, ce qui se passe là-bas. Bon. Et les temps modernes vont être saisis. Sartre va faire l'objet de poursuites, Georges Mattei aussi, mais il n'y aura jamais de procès. La justice militaire se gardera bien d'intenter un procès. Pensez bien, ça aurait été précisément l'occasion de parler de ces crimes de guerre commis en Algérie. Il n'en était surtout pas question. Bon. Et donc, il va retrouver donc ces gars comme lui, là, et ils vont monter une association de rappelés qui veulent témoigner. Voilà. Et donc, il va être... et puis, il y a d'autres associations qui se montent dans le même temps. Il y a Servan Schreiber qui monte son association. Il y a le PC qui en monte une autre. Bon, tous, ils sont méfiants les uns vis-à-vis des autres. Bon. Et puis, finalement, en 58, ils décident de se regrouper et ils vont fonder donc une grande association d'anciens d'Algérie. Alors l'orientation, et Georges Mattei est un des vice-présidents de cette association. Et lui, ce qu'il veut, c'est que ces gars-là témoignent et puis qu'ils aillent à la bagarre. Son rêve, c'est une grande manifestation au cours de laquelle les anciens d'Algérie se foutent sur la gueule avec la police. Bon, voilà. Mais le PC, c'est pas du tout son truc, ça. C'est les droits des appelés, c'est ce genre de choses. Servan Schreiber, lui, son problème, qui est à ce moment-là, c'est bon, il est fondateur de l'Express. Son problème, c'est de faire une carrière politique à Servan Schreiber. Donc finalement, ça va exploser cette association. Ça va exploser. Puis alors, sur ces entrefaites, voilà qu'il est contacté par un avocat qui s'appelle Jacques Vergès. Qui doit défendre des combattants du FLN qui ont tenté d'assassiner Jacques Soustelle, qui avait été gouverneur général de l'Algérie, qui ont tenté de l'assassiner à Paris. Et donc ils comparaissent devant le tribunal militaire. Ils risquent évidemment leur tête. Et Vergès contacte Georges Mattei pour lui demander s'il veut bien venir témoigner. Et donc il accepte. Il accepte de venir témoigner de ce qu'il a vu en Algérie et pour dire qu'il comprend le geste de ces hommes. Voilà. Alors évidemment, ça va provoquer des réactions indignées des défenseurs de l'armée, dont l'honneur se trouve mis en cause, etc. Voilà. Et puis alors, il fait des réunions ici et là, puis ça ne change rien. La guerre d'Algérie continue, s'aggrave. Et donc, il se demande à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert ? Il en a marre.
Et oui, non, ce que je vous dis, dans votre bouquin, vous racontez, il laboure le terrain, il est en permanence en train voilà. de témoigner, en train de
voilà.
faire des conférences.
Voilà,
en train
voilà, voilà, oui. Avec d'autres. Et puis, bon, bah, il fait la connaissance de quelqu'un qui a joué un rôle très important durant les années de la guerre d'Algérie, le journaliste Robert Barra. Robert Barra, qui était un grand journaliste, mais plus qu'un journaliste. C'était un anticolonialiste de la première heure. Hein. Il avait beaucoup fait pour l'indépendance du Maroc. Et ça a été un des premiers journalistes à se rendre dans les maquis algériens. D'ailleurs, il a été ensuite arrêté. Bon. Et Robert Barra, ben, un jour, lui dit, viens le voir et lui propose, ainsi qu'un de ses camarades, Jean-Claude Popper, ben, de rencontrer des gens qui sont engagés dans quelque chose. Voilà. Et donc, il rencontre les gens en question. Il s'agit de Francis Janson. Voilà. Il rencontre donc Francis Janson en 1959 et Janson lui propose, eh bien, d'entrer dans le soutien au FLN.
Alors, il accepte. Deux mots sur Francis Janson.
Francis Janson, c'est un philosophe, hein. C'est un philosophe, ça a été un des responsables de la revue Les Temps Modernes. Hein, très proche de Jean-Paul Sartre. C'est quelqu'un qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est engagé pour combattre le nazisme, qui a été longtemps prisonnier dans des camps en Espagne en cherchant à rejoindre Londres. Bon, qui était même gaulliste, hein, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis donc, il a donc écrit ce livre-là, dès 1954-55, l'Algérie hors la loi, hein, bon, et ça va être donc celui qui va mettre sur pied le premier réseau de soutien aux Algériens engagés dans leur lutte pour l'indépendance.
Hein. Ce qu'on va appeler les porteurs de valises.
Oui, ce qu'on a appelé les porteurs de valises. Moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que ça donne l'image de valets en quelque sorte, hein, voilà, comme s'ils n'avaient pas leur propre initiative et leur propre démarche, hein. Bon, ceci dit, bah, c'est vrai qu'ils ont porté beaucoup de valises et que Georges Mattei va porter beaucoup de valises et organiser le transport de beaucoup de valises qui servent, en règle générale, à transporter des billets qui proviennent des collectes, des cotisations versées par les Algériens résidant en France et qui ont servi à financer le FLN pendant la guerre d'Algérie. Ça a représenté des sommes absolument considérables. Pendant des années, donc, Georges Mattei va être un des principaux organisateurs, eh bien, de ces transports de fonds. Et je vous le dis tout de suite, il finira sa vie sans un sou. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui n'a jamais tapé dans la caisse. Hein. De toute façon, vous savez, celui qui tapait dans la caisse du FLN pendant la guerre d'Algérie et qui se faisait prendre, celui-là, il était tué.
Ben. Juste, il y a quelques pages dans votre livre, Jean-Luc Hénaudy, le livre que vous écrivez sur Georges Mattei, sur justement cette hésitation au moment donné où il passe de la dénonciation de ce que fait l'État français en Algérie au moment où il passe au soutien au FLN, où grosso modo, là, il change de camp, il devient actif. Oui. Et c'est assez intéressant la réflexion que Georges Mattei a sur son propre passage qui se fait pas aisément.
Lui, si, ça s'est fait assez rapidement. C'est son camarade Jean-Claude Popper, qui était très proche de lui, qui vient du milieu qui était assez proche, vous voyez, par exemple, de Mendès France, voilà, qui est un profond démocrate, voilà. Hein. Pour lui, l'action illégale, c'était pas dans ses schémas de pensée, hein, l'action clandestine, non. Et donc, quand Janson lui propose, ainsi qu'à Georges Mattei, de s'engager dans l'action illégale, hein, eh bien, Joe répond tout de suite d'accord. Et son camarade Popper, lui, eh ben, va réfléchir pendant des semaines, parce que c'est une décision qui, pour lui, ne va pas de soi. Finalement, il va accepter, et il sera, ça va être un des piliers, hein, du réseau Janson, et il sera arrêté donc en 1960, et il sera en prison jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Hein. Bon. Alors, Georges Mattei, la première mission qu'il reçoit, eh bien, c'est la diffusion du bulletin du réseau Janson qui s'appelait Vérité pour. Et Vérité pour, eh bien, je le raconte dans ce livre, était imprimé, d'abord, le premier qui s'en est occupé, c'est l'écrivain Vercors. Vercors, bon, donc, de son vrai nom Jean Brulaire, hein, l'auteur du Silence de la mer, avait considéré qu'il était dans la continuité de son action de résistant, hein, et d'écrivain de la résistance, eh bien, de s'engager contre cette guerre d'Algérie et de participer à une action illégale contre cette guerre. Hein. Et donc, ça a été le premier à s'occuper de cette publication. Par la suite, il y aura François Maspero qui s'en occupera. Bon, c'est un petit bulletin. Mais alors, l'imprimeur, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Dupont. Et Jacques Dupont, eh bien, c'était un jeune FTP sous l'occupation, hein, et qui, lui aussi, a considéré comme étant dans la filiation de son engagement, eh bien, de participer à cette action illégale. Alors, Joe s'occupe de ça. Et puis, il n'est pas satisfait du fonctionnement de ce réseau. Il trouve que c'est léger, que c'est pas très sérieux, que on prend pas très au sérieux l'illégalité, hein. Bon. Et alors, il s'en ouvre à Robert Barra, qui lui dit, bah, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Et il lui fait rencontrer Henri Curiel. Voilà. Henri Curiel, donc, communiste, juif, égyptien, hein, bon, qui, donc, est devenu apatride, hein, et qui s'est engagé aussi aux côtés donc de Janson dans le soutien au FLN, hein, mais avec lui donc des conceptions communistes, hein, des conceptions communistes. Et donc Joe, qui lui n'est pas, je vous ai dit, hein, il est lui de tendance libertaire, hein, idéologiquement il a peu à voir avec Curiel. Hein, mais Curiel, eh bien, lui propose, lui fait confiance, hein, et entre eux, il va y avoir une grande relation de confiance. Et donc, Joe va s'occuper particulièrement de l'organisation des passages de frontières, etc. Et alors, Curiel, le réseau Janson, disons, va peu à peu être supplanté par ce réseau pris dont Henri Curiel est le dirigeant, hein, en relation donc avec le FLN. Tout ça se mène en relation avec la Fédération de France du FLN. Hein. Bon. Et finalement, Curiel va être arrêté, hein, en 1960, et Georges Mattei va poursuivre l'action de ce réseau, qui est un réseau à caractère national, un des réseaux, hein, d'ailleurs, parce que on peut parler des réseaux de soutien au FLN, hein, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc c'était, on peut dire quand même, le principal réseau de soutien au FLN, qui a joué un grand rôle pour tout ce qui concerne les passages de frontières, hein, avec la Suisse, avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne, etc., et dans le transport, des fonds. Hein. Bon. Et donc, il va mener cette action, eh ben, jusqu'en 1962.
Alors, si on avance un peu, enfin, il y a un événement sur lequel j'aimerais revenir, c'est que Georges Mattei est au courant de la manifestation du 17 octobre 61, ouais. Et il va être mobilisé, il va lui-même mobiliser pour témoigner de ce qui se passe ce jour-là. Voilà. Je parle de ça voilà. Parce que c'est un sujet, Jean-Luc Henoudi, qui vous préoccupe beaucoup, le 17 octobre 61, ouais. Et ce depuis, j'imagine, 2 décennies maintenant. Quel rôle il a ? Parce qu'il va témoigner, lui.
Ben, c'est-à-dire que, comme il était en relation avec les responsables de la Fédération de France en France, il est informé par l'un d'entre eux, qui s'appelait Mohamedi Sadok, que des manifestations vont avoir lieu, bien, contre le couvre-feu décrété par Papon. Et Mohamedi Sadok lui demande de prévoir des observateurs pour... Voilà, qui pourront témoigner de ce qu'ils auront vu. Et donc, il va organiser ça, hein, et le jour venu, eh bien, ces observateurs seront là pour voir ce qui se passe. Et lui-même va voir ce qui se passe. Et ce jour-là, donc, il assiste, et eux aussi, au déchaînement de, là aussi, de la barbarie, en l'occurrence, là, une barbarie policière, hein, ça va être un autre moment qui va approfondir hein, son engagement, hein, son engagement et cet écœurement, faut dire les choses, cet écœurement profond de la France, hein, parce que ça se passe, eh bien. Dans l'indifférence quasi générale, parfois avec la complicité de certaines personnes qui montrent du doigt des Algériens qui cherchent à se cacher, etc. Bon, voilà. Et donc, cet écœurement qu'il avait ressenti à son retour d'Algérie, ben, il s'approfondit là. Hein ?
Ici Orly. Déploiement de forces de l'ordre discret mais inhabituel sur l'aéroport de Paris. 100 à 150 musulmans algériens vont être ramenés en Algérie et assignés à résidence. Ce sont les premiers manifestants de mardi soir qui sont ainsi frappés par les mesures d'assignation. Deux super constellations d'Air France sont là, entourées d'une forte escorte de CRS. Il est 13h exactement, les musulmans algériens viennent d'arriver dans 4 quarts de la préfecture de police. Ils sont calmes. Escortés par des agents, de nombreux motards de la préfecture également sont ici. Ils passent maintenant devant moi. Ils n'ont absolument aucun bagage, aucune valise. Il fait très froid sur cette piste d'Orly et les cols des manteaux sont relevés. Et c'est maintenant l'appel des assignés qui commence.
Aït Médour, Abdallah. Aït Médour. Allez, Belarki Maklouf.
Les uns après les autres, les assignés montent dans l'avion. Les uns sont crispés, les autres ont le visage détendu. J'en ai vu un tout à l'heure qui essuyait même une larme.
Vous savez que plusieurs aussi des manifestants algériens arrêtés sont internés au nouveau palais des sports, mais on dit à la préfecture de police que des dispositions sont envisagées pour libérer le plus vite possible le palais des sports, où il y aura demain soir un récital du musicien noir Ray Charles. Le maximum, dit-on à la préfecture de police, le maximum sera fait pour dégager la salle en temps utile, mais il est nécessaire de trouver de nouveaux locaux disponibles.
Voilà ce qu'on pouvait entendre sur les antennes radiophoniques nationales le 19 octobre 1961. Après, l'information, on reconnaît à l'époque 2 morts dans les bulletins d'information. Et puis, l'information va totalement disparaître sur cette nuit de voilà. Massacre en plein voilà. Paris. Georges Mattei, puisque c'est toujours de lui dont on parle, Jean-Luc Henoudi, Georges Mattei a assisté à ces événements et va témoigner, il va pendant longtemps être un des rares avec voilà. François Maspero et quelques autres à dire ce qui s'est passé cette nuit-là.
Voilà, c'est bien ça. Par exemple, vous avez donc évidemment fin des années 60, mais juin 68. Et vous savez, j'attire votre attention sur le fait que Vous savez, les cadres du mouvement étudiant de 68, en fait, la plupart, ce sont des gens qui se sont formés dans l'opposition à la guerre d'Algérie et pour un certain nombre d'entre eux, dans le soutien au FLN. Georges Mattei, dans le soutien au FLN, supervisait un groupe qui s'appelait le groupe Nizan. Hein ? Le groupe Nizan était constitué d'étudiants. Vous voyez ? Bon. Et ces étudiants-là, quelques années plus tard, vont être les moteurs de ce mouvement de mai 68. Et alors, dans les années 70, Georges Mattei va être un de ceux qui va continuer à parler du 17 octobre 61, par exemple, dans un petit journal qui est paru après la mort de travailleurs africains dans un foyer à Aubervilliers, en 1970, avec un camarade à lui, quelqu'un d'absolument une grande figure qui s'appelait Pierre Espel. Ils vont lancer un journal qui s'appelle Le Paria. Et dans Le Paria, on parle du 17 octobre 61. Voyez. Et puis alors, en 1980, c'est lui qui va être à l'origine de la publication par Libération d'articles sur le 17 octobre 61, en octobre 80. Libération titre, il y a 19 ans, un massacre au cœur de Paris, un massacre raciste au cœur de Paris. Bon, 1980, Maurice Papon est ministre du budget, Roger Frey est président du Conseil constitutionnel, etc. Voilà. Et en 81, c'est lui aussi qui va témoigner dans un sujet pour la télévision où, pour la première fois, on parle réellement du 17 octobre 61. Et là, il témoigne.
Par Marcel Tria.
Voilà.
Alors, juste parce que l'émission avance, parce que son parcours, on pourra évidemment pas évoquer tout le parcours de Georges Mattei. Il y a juste une chose pour finir sur la guerre d'Algérie. Oui. Il va pas faire partie des pieds rouges, qu'on a appelé les pieds rouges, c'est-à-dire des militants qui ont soutenu l'indépendance et qui, après la guerre, vont aller s'installer en Algérie pour soutenir...
C'est pas son option, ça.
Alors, pourquoi ?
C'est pas son option. Parce qu'il considère que une fois l'indépendance de l'Algérie acquise, c'est l'affaire des Algériens. Voilà. C'est l'affaire des Algériens, c'est plus son affaire à lui. Lui, au fond, s'il s'est engagé dans cette affaire-là, dans le soutien au FLN, c'est parce qu'il a été rappelé en Algérie et qu'en tant que Français... Il s'est trouvé pris dans toute cette saloperie de guerre là. Et donc, une fois l'indépendance acquise, il considère que c'est plus son affaire. D'autant plus qu'entre-temps, il s'est tourné vers l'Amérique latine.
Alors c'est là où je voulais en venir parce que évidemment on ne pourra pas évoquer son parcours entier. Mais vous allez nous en dire quelques mots. Il va partir
c'est
à
très
Cuba.
Important.
Il va partir à Cuba. Oui. Il va partir à Saint-Domingue. Il va rencontrer des figures absolument.
Ça passe très souvent par des rencontres. Bon, et il se trouve que à la suite d'un certain nombre de circonstances, de rencontres, il va à Cuba l'été 1961 et là-bas. Il trouve une ambiance qui lui plaît, qui lui convient, dans laquelle il se sent à l'aise. Et puis alors il fait des rencontres de révolutionnaires latino-américains qui sont réfugiés là. Il fait la connaissance de révolutionnaires argentins, par exemple. Bon. Et puis, à son retour, chose importante aussi, il est à l'origine, avec François Maspero, de la revue Partisan. Partisan, qui va être une des revues importantes dans les années 60 et même après. Bon, mais il va rompre avec Maspero. Bon. Après la guerre d'Algérie, effectivement, ça va être Saint-Domingue, ça va être là aussi avec une histoire d'amitié, parce que c'était quelqu'un pour qui l'amitié était quelque chose de très important. Et ça a joué un grand rôle dans tout son itinéraire. Bon. Et donc il va s'engager aux côtés des révolutionnaires de Saint-Domingue. Il va, au fond, mettre ce qu'il avait appris dans l'action clandestine durant la guerre d'Algérie, eh bien, il va le mettre au service de révolutionnaires latino-américains de divers pays. Ensuite, ça va être le Venezuela avec Douglas Bravo. Hein, Douglas Bravo, qui, bon, aujourd'hui, c'est un nom sans doute oublié, mais vous savez, dans les années 60, c'était, il y avait Che Guevara, il y avait Douglas Bravo, il y avait Camilo Torres, c'était une des figures ben, des guérillas latino-américaines. Hein. Bon, c'était un temps où il y avait une espérance d'insurrection dans le tiers-monde.
À l'échelle du continent.
Voilà, et tout particulièrement en Amérique latine. Guérilla qui était contre des régimes dictatoriaux, des régimes terroristes. Hein. Et alors, je voudrais vous faire remarquer une chose. C'est qu'au moment même où lui, de la guerre d'Algérie, en vient au soutien aux révolutionnaires latino-américains, vous avez en sens inverse les tortionnaires d'Algérie qui forment les tortionnaires latino-américains. C'est-à-dire que, au fond, c'est le combat des mêmes contre les mêmes qui se poursuit. Vous voyez ? Et on sait de plus en plus maintenant que sous Giscard d'Estaing, eh ben, des types comme Ossarès et d'autres, eh bien, ont continué à former des tortionnaires.
Alors, Jean-Luc Enaudi, si vous publiez ce livre sur Georges Mattei, c'est que vous l'avez connu, vous, personnellement. Alors, il nous reste peu de temps, mais juste, peut-être un peu plus personnellement, c'était qui, c'était quoi ce ben, personnage de
Georges? Je dirais que c'était fondamentalement un homme fraternel. Un homme fraternel, voilà, c'est ça, là. La recherche de la fraternité, c'est ce qui le caractérise. Mais je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que c'était un écrivain. C'est quelqu'un qui a écrit toute une série de pièces de théâtre, hein, qui a écrit plusieurs romans, hein, par exemple un roman qui s'appelle La guerre des Gus, qui a été publié au départ chez Ballan, puis réédité aux éditions de l'Aube, et c'est probablement un des meilleurs romans sur la guerre d'Algérie, hein, dont vraiment je conseille la lecture à tous ceux qui, et surtout aux plus jeunes, hein, qui veulent savoir un petit peu de quoi ces temps-là ont été faits.
Alors voilà, il y a plein de choses dont on ne pourra pas parler. On a très très rapidement évoqué tout son parcours, tout ce qu'il a fait en Amérique latine. Ça a été vraiment une sorte d'intellectuel engagé, puisqu'il a beaucoup.
Intellectuel, non, vous savez.
Alors est-ce qu'on peut le qualifier d'intellectuel ou pas?
Parce non, que il va c'était participer, pas. Ouais.
Il va participer. Quand vous citez, c'est impressionnant le nombre de journaux auxquels il participe, le nombre d'articles qu'il rédige, le nombre de livres et de pièces de théâtre.
Ouais.
Alors est-ce que c'est un intellectuel?
Lui ne se considérait pas comme un intellectuel. C'était un homme d'action. Et c'était quelqu'un qui avait la passion des mots, voilà, et de l'écriture, à la fois comme lecteur, comme poète, comme auteur de pièces de théâtre, comme romancier. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas pu pleinement déployer ses qualités. Il a écrit un certain nombre de textes qui n'ont pas été publiés. Voilà. Alors, mais intellectuel, voilà, ça ne lui correspond pas, vous voyez. Hein, il se reconnaissait pas dans cette catégorie, hein, et je crois qu'effectivement ça ne le situe pas bien. Voilà, homme d'action et homme de mots.
Alors à la fin de votre livre, vous citez Mounier. C'est lui qui citait Mounier dans un de ses textes, qui pourrait peut-être résumer un peu le parcours de Georges Mattei, qui dit « Nous ne nous engageons jamais que dans des combats discutables sur des causes imparfaites. Refuser pour autant l'engagement, c'est refuser la condition humaine. » Est-ce que c'est quelque chose, voilà, on a l'impression que ça guide à la lecture de votre livre, que ça guide un peu son parcours ce...
Oui, c'est quelqu'un qui s'est engagé parce que finalement il avait pas d'autre, de toute façon, il avait pas d'autre solution. Hein. Et ce qui est le plus remarquable, c'est que finalement ceux qui l'ont envoyé en Algérie contre sa volonté, hein, eh bien, en ont fait par là même un des principaux acteurs du combat contre cette guerre. C'est les retournements de l'histoire.
Alors, juste avant de terminer cette émission, j'ai deux petites questions. Vous publiez donc, on va le rappeler une 18e fois, Franc-Tireur, Georges Mattei, de la guerre d'Algérie à la guérilla.
Franc-Tireur, ça le situe bien, vous voyez. C'était son esprit.
Vous mettez ça en introduction de votre livre, Georges Mattei, qui dit « Tu sais ce que nous sommes, des francs-tireurs ».
Voilà.
C'est lui-même qui se définissait comme ça. Alors, c'est publié par c'est une coédition de deux petits éditeurs, les éditions du Sextant et les éditions d'Angers Public, qui ont été obligés de se mettre à deux pour un auteur tel que vous.
Voilà. Oh, c'est pas tellement pour ça. C'est surtout parce que l'édition étant ce qu'elle est et la diffusion étant ce qu'elle est, eh ben, il a fallu qu'ils regroupent leurs forces pour pouvoir éditer et diffuser ce livre.
Et puis, je voulais quand même vous demander. Depuis des années, on se voit pour parler du 17 octobre 61. Nous, on est allés à la manifestation de cette année, qui nous a paru un petit peu rikiki, très 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 réduite. Où on en est dans la progression
Savez, moi, le 17 octobre là, cette année, j'étais à Nanterre. J'étais dans la ville de Nanterre. Il y avait du monde, il y a eu des échanges, des témoignages. Le matin, j'étais au pont de Beson où il y avait des Algériens qui étaient là, des anciens qui. Le soir, j'étais à Bobigny. Bon, et puis vous avez eu par exemple une rue du 17 octobre 61 qui a été inaugurée à La Courneuve. Hein, vous avez diverses initiatives comme ça qui se... à Sarcelles, vous avez une stèle qui a été inaugurée le 17 octobre également de cette année. Hein. Donc il y a là un mouvement qui s'approfondit. Hein. Bon, et je vois bien que c'est quand même de plus en plus largement, on sait quand même qu'il y a eu un 17 octobre 1961.
Voilà, écoutez, Jean-Luc Hénaudy, merci beaucoup pour votre visite. Évidemment, on n'a fait qu'effleurer. Il y avait encore beaucoup de choses à dire sur le parcours de Georges Mattei. Il y avait tellement de choses à dire que vous en avez fait un livre. Ça s'appelle donc Franc-Tireur, Georges Mattei de la guerre d'Algérie à la guérilla. C'est une coédition des éditions du Sextant et des éditions d'Angers Public. Merci. Combien ça coûte? Ça coûte 17,50 €. Et c'est distribué par les Belles Lettres. Ça coûte 17,50 €. Et alors moi, je voulais vraiment vous dire un truc, c'est que j'ai trouvé que c'était formidablement bien écrit. Je m'excuse, mais j'avais pas repéré qu'il y avait une telle plume dans vos ouvrages précédents que j'avais lus. Mais au-delà du fait du parcours et de l'intérêt de ce personnage, il y a une plume qui m'a enchanté. Voilà, je tenais à vous le dire parce que c'était un vrai plaisir de lecture.